Benjamin Biard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes politologue au CRISP, qui est le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité politique belge. Et une chose que l'on note en ce moment, si on regarde certaines déclarations de certains politiciens, eh bien, les sorties médiatiques des présidents de parti, par exemple, on a comme l'impression que la course aux 16 rue de la Loi se met un petit peu en marche tout doucement, non?
La question qu'on peut véritablement se poser, c'est est-ce que finalement la course, alors peut-être pas aux 16, mais ne fût-ce que dans la perspective des élections totales, je dirais dans le sens où on a deux grands scrutins, les élections à la fois européennes, fédérales, régionales et communautaires dans un premier temps au printemps, et puis les élections communales et provinciales qui suivront à l'automne, qui se rapprochent de plus en plus, mais on a surtout l'impression de ne pas encore avoir quitté le climat de campagne telle qu'on l'a connue en 2019 et singulièrement depuis la mise sur pied du gouvernement de Croo le 1er octobre 2020. Je dis cela parce que on a pu observer dans un climat, il est vrai, assez particulier, inédit de 7 partis politiques qui forment ce gouvernement fédéral pour ne parler que de celui-ci, qu'il y avait des tensions très rapidement d'ailleurs qui ont pu émerger. On l'a observé rapidement après la mise sur pied du gouvernement de Croo par rapport à la question de la pension minimale. Est-ce que le montant minimal de 1 500 euros est brut ou est net? Rapidement, après la conclusion de l'accord pourtant, on a pu observer que tout le monde n'était pas nécessairement en accord avec cette question. Et très rapidement, donc, des partis, mais très variés, il n'y en a pas un particulièrement, se sont finalement sont sortis du bois, je dirais, pour dénoncer un non-respect de l'accord du gouvernement, pour dénoncer certaines mesures avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement en phase, ce qui finalement donne une impression de campagne, alors je ne dirais pas quasi permanente, mais d'être déjà en campagne depuis un certain temps.
Alors donc 2024, c'est l'année des élections, on a encore un petit peu le temps. Certains politiciens convoitent certains ministères au sein du gouvernement fédéral, mais on voit aussi se dégager des candidats au poste de Premier ministre. Hein. Paul Magnette ne s'en cache plus, Georges-Louis Boucher l'a évoqué, et puis Alexander De Croo, l'actuel Premier ministre, qu'on imagine bien candidat à sa propre réélection. Est-ce que tout cela indique que la fonction de Premier ministre est plus, si j'ose dire, séduisante, plus glamour qu'auparavant, surtout depuis la crise sanitaire?
Je ne sais pas si c'est le plus séduisant. Par contre, effectivement, c'est un poste qui attire pour une famille politique, certainement, mais aussi pour des personnalités. Vous en avez cité trois. On peut y ajouter Conor Rousseau, le président de Vaureuil également, qui ne cache pas son ambition malgré son âge. Ça en ferait le plus jeune premier ministre du pays, qui néanmoins voit sa formation politique, en tout cas si on en croit les sondages, progresser de manière particulièrement importante depuis qu'il en a repris les rênes. Donc je pense qu'il y a là un élément effectivement assez important, sans oublier néanmoins que le poste de Premier ministre implique que la formation politique d'où il provient, ou elle provient le cas échéant, est amenée généralement, certes, à favoriser le consensus entre les partis membres de la majorité ou de la coalition, mais également de laisser davantage de place au compromis, je dirais, puisque vous obtenez le poste, mais c'est aussi dans le cadre d'un échange, d'un compromis à l'égard d'autres postes ou de certaines fonctions bien spécifiques qui pourraient là aussi attirer certaines formations. Donc je pense qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs paramètres à prendre en compte. Et on sait que pour les autres postes, qui ne sont pas nécessairement ceux de Premier ministre, il y a plusieurs arguments qui peuvent présider aux différents choix des partis politiques en présence. On peut avoir la volonté de se démarquer en obtenant un portefeuille ministériel par rapport auquel on est déjà plus ou moins finalement visible en termes de politique publique. On peut penser aux socialistes, à l'emploi par exemple, ou aux pensions. On peut penser à la mobilité pour les écologistes, ce qui est le cas aujourd'hui avec Monsieur Gilles-Quinet par exemple. Mais certains peuvent aussi tenter d'obtenir un portefeuille, par exemple, pour empêcher un parti qui se profile particulièrement bien sur cet enjeu d'en bénéficier. On voit qu'il y a toute une série, ce ne sont que deux arguments, mais d'arguments qui peuvent intervenir pour expliquer pourquoi certains partis vont favoriser le choix d'un ou l'autre portefeuille plutôt que d'autres.
Alors, on avait vu il y a quelques mois que le parti Défi laissait sous-entendre la création d'un potentiel nouveau parti centriste avec les engagés, mais aussi avec Jean-Luc Cruc, ex-MR, qui vient de rejoindre les engagés de Maxime Prévot. Est-ce que 2024 pourrait réserver des surprises telles que l'émergence de nouveaux partis politiques?
Alors, on n'est jamais à l'abri de surprises. Souvenons-nous, par exemple, de 2018-2019, juste avant le scrutin du 26 mai 2019. de Alain de Sceaux, qui quitte l'EMR et qui crée sa propre formation politique, les listes de Sceaux, entrant ainsi notamment en concurrence avec le Parti populaire de Michael Modricamène. Puis lors, l'un comme l'autre ont disparu, en tout cas se sont refondés, je dirais différemment, dans le paysage politique, même si on en entend assez peu parler. Donc on voit que les surprises sont toujours envisageables. Alors pour ce cas bien précis, pour le coup, on voit que c'est surtout une initiative qui semblerait en tout cas émerger du point de vue du CDH, puis désengagé depuis leur nouvelle appellation. Et c'est justement du côté de DEFI que ça semble davantage bloqué, avec certains mouvements, peut-être pas de résistance, mais d'opposition qui ont pu s'exercer, s'opérer en interne. Il y a quelques semaines, les mandataires locaux de la commune de Floreffe en Wallonie ont quitté DEFI pour rejoindre les engagés, arguant par là qu'ils étaient de plus en plus en désaccord avec la direction de leur parti, notamment sur cette question du rapprochement au centre. Et donc on voit que là, effectivement, il peut y avoir un mouvement qui s'opère, même si effectivement DEFI est loin d'être unanime par rapport à un possible rapprochement. Et François de Smet a rappelé il y a peu de temps que ce n'était pas nécessairement à l'ordre du jour. Donc on voit qu'effectivement, il y a des éléments qui s'opèrent. On a eu effectivement le départ de Jean-Luc Truc du MR pour rejoindre les engagés. Il y a en même temps d'autres mouvements qui s'opèrent. Au sein des engagés bruxellois, il y a eu un tas de défections ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment pensons à la députée bruxelloise Véronique Lefranc, par exemple, qui a quitté les engagés pour siéger comme indépendante. On peut penser également à un autre niveau, à l'ancienne présidente des jeunes CDH, Opaline Meunier, qui hier a annoncé son départ des engagés pour rejoindre le mouvement réformateur. Donc on voit qu'il y a des opérations qui se réalisent, tantôt plutôt électoralistes, tantôt plutôt idéologiques ou stratégiques plus largement également, mais qui peuvent encore se produire d'ici 2024. Effectivement, je pense qu'on ne peut pas l'exclure.
Alors, Benjamin Billard, vous effectuez de nombreux travaux sur tout ce qui relève de l'extrême droite et du populisme. On en a déjà souvent parlé avec vous sur nos ondes. Alors, actuellement, avec la montée des extrêmes un peu partout en Europe, que ce soit en Italie, en Hongrie, avec le Rassemblement national qui a quand même rallié de nombreuses voix en France en 2022, on voit tout de même la capacité de l'extrême droite qui s'impose de manière toujours plus importante au point de vue des électeurs. Par exemple, Vlaams Belang qui pourrait en 2024 devenir le premier parti en Flandre. Est-ce qu'on pourrait avoir ce cas de figure en Belgique de voir un parti d'extrême droite au gouvernement?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, la première, c'est qu'il y a un développement extrêmement important ces dernières années de l'extrême droite en Europe de manière générale, avec quelques pays résistants ou quelques régions qui semblent ne pas connaître ce développement. Pensons à l'Irlande, à l'Islande ou à Malte, encore le Luxembourg, pays voisin, par exemple. Premier élément. Le deuxième, c'est que de plus en plus, et ça, c'est une nouveauté particulière de ces 20 dernières années, c'est que l'extrême droite ne parvient pas, non seulement elle parvient dire autrement, à remporter des succès électoraux de plus en plus importants, mais en plus, elle parvient à gagner en légitimité pour ra se rapprocher toujours plus du pouvoir. Et on le voit dans un tas de pays où elle arrive non seulement à devenir une force parlementaire importante, comme en France, 89 sièges à l'Assemblée nationale sont aujourd'hui, depuis le mois de juin, dévolus au Rassemblement national, parti de Jordan Bardella et avant lui de Marine Le Pen, mais également dans un tas de pays où l'extrême droite arrive à exercer le pouvoir. Vous avez par exemple cité le cas hongrois. On pourrait également parler à travers l'histoire récente de la Slovaquie, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Suisse, certainement, de l'Autriche, de l'Italie et de certains autres pays européens également. Alors, est-ce que la Belgique pourrait suivre cette tendance? Je serais nuancé dans le sens où on a quand même un mécanisme en Belgique qui empêche la participation au pouvoir de l'extrême droite, qui est le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire, qui est une réalité qui a plus de 30 ans aujourd'hui, et qui consiste en un accord conclu entre les principaux partis politiques dits démocratiques pour ne pas gouverner avec l'extrême droite. Et donc, en vertu de ce cordon sanitaire politique, l'extrême droite ne pourrait pas si facilement que cela exercer le pouvoir, en tout cas en Flandre, si on parle du Vlaams Belang précisément. Ça ne veut pas dire que le Vlaams Belang ne peut pas gagner en influence, ne peut pas gagner en nombre de suffrages également, et vraisemblablement, depuis plus de 3 ans désormais, les sondages successifs nous indiquent que le Vlaams Belang est plutôt en bonne posture. Et je terminerai peut-être avec un autre élément, ou en tout cas une autre face de la même pièce, Belgique, je dirais, qui est non plus le Vlaams Belang en Flandre, mais ce qu'il est de l'extrême droite ailleurs en Belgique. Et là, ça traduit le destin assez paradoxal, je dirais, de l'extrême droite à travers le territoire belge, c'est-à-dire qu'elle est particulièrement puissante ces dernières années, particulièrement en Flandre, alors qu'elle est complètement marginale et marginalisée en Belgique francophone et en Belgique germanophone. Donc on a là un cas assez intéressant, avec peut-être des surprises qui pourraient encore émerger, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, au sud du pays. On sait qu'il y a un nouveau parti intitulé Chez nous qui s'est créé en 2021 et qui tente de s'imposer dans le paysage politique, un parti tel que celui-ci, qui a l'ambition de déposer des listes électorales avec la volonté peut-être d'essayer de décrocher un siège pour les élections fédérales.
Et on aura bien évidemment l'occasion de reparler de tout cela avec vous d'ici à 2024. Merci beaucoup Benjamin Biard pour vos précieux éclairages. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue au CRISP. Très belle journée et à très bientôt.